Bonsoir à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 9 janvier 2025. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Funérailles nationales ce jeudi, ici aux États-Unis, pour l'ancien président Jimmy Carter, décédé le 29 décembre à l'âge de 100 ans. Au Tchad, le calme est revenu jeudi dans la capitale, au lendemain d'une attaque au motif encore flou au palais présidentiel. Au Liban, le commandant en chef de l'armée, le général Joseph Aoun, a été élu jeudi président de la République. Et dans notre partie magazine, nous irons en RDC où de nombreuses personnes au teint naturellement foncé préfèrent s'éclaircir la peau, risquant de nuire à long terme à leur santé physique et mentale.
J'avais le teint foncé et j'étais proche d'une amie qui était naturellement brune. J'ai donc acheté de lotion pour éclaircir ma peau. Mais aujourd'hui, je regrette trop d'avoir perdu le teint avec lequel Dieu m'a créé.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les États-Unis ont tenu des funérailles nationales aujourd'hui pour l'ancien président Jimmy Carter. Point d'orgue de plusieurs jours d'hommage rendu au prix Nobel de la paix qui a marqué l'histoire du pays et du monde. Davantage avec Jacques Aristide.
Une cérémonie empreinte d'émotion et de solennité. En présence de son successeur, Donald Trump, l'actuel président Joe Biden a prononcé l'éloge funèbre à la cathédrale nationale de la capitale Washington. Aux côtés d'environ 3000 personnes, tous les quatre autres présidents américains encore en vie ont assisté aux funérailles, de Bill Clinton à Donald Trump, en passant par George W. Bush et Barack Obama, présence également de la vice-présidente Kamala Harris et J.D. Vance, celui qui va la succéder le 20 janvier. Non sans une pointe d'humour, Jason Carter, l'un des petits-fils de Jimmy Carter, a rappelé que son grand-père était aussi une source de bonheur et de joie dans la vie de sa famille. Ce jeudi a été déclaré jour de deuil national avec fermeture des administrations fédérales. Joe Biden a aussi ordonné que les drapeaux soient mis en berne pendant 30 jours pour rendre hommage au 39e président décédé le 29 décembre à l'âge de 100 ans. D'abord perçu comme faible par ses pairs à Washington, Jimmy Carter s'est imposé à l'international en homme d'État pacificateur, négociant notamment le premier accord de paix entre Israël et un pays arabe, l'Égypte. Après son mandat, il s'est illustré dans différentes initiatives via le Centre Carter en faveur de la démocratie et des droits humains, un engagement humanitaire, y compris en Afrique, qui lui a valu une reconnaissance internationale jusqu'au prix Nobel de la paix en 2002.
Le président Jimmy Carter sera inhumé à 17h20 lors d'une cérémonie privée dans son état natal de Géorgie. Il reposera aux côtés de son épouse, avec qui il a partagé 77 ans de mariage. Eric Maniakiza a joint au Maroc Calvin Dark, analyste américain, directeur et cofondateur de RCCO Communication, un centre de réflexion basé ici à Washington DC. Il revient sur les caractéristiques emblématiques de sa gouvernance.
Il a fait quelque chose sans précédent. Normalement, la Maison Blanche, ça c'est le point culminant pour votre CV. Mais pour le président, ancien président Jimmy Carter, pour lui, c'était le point de départ pour une vie historique. Et alors, je crois qu'il est l'exemple pour les présidents de l'avenir. Qu'est-ce que c'est ça, la vie après la Maison Blanche? Est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose de plus historique, de plus aider le monde, l'Amérique? Jimmy Carter, il a fait ça.
Et en matière des droits au niveau des États-Unis, quelles sont les grandes réalisations de Jimmy Carter durant les 4 ans?
Il a beaucoup fait, surtout pour la communauté noire, parce qu'il était du sud, de l'État de Géorgie, où il y avait peut-être des moments les plus frappants pour la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Alors, il connaissait très, très bien les tensions d'être dans l'État où le racisme, c'était vraiment une partie du système. Alors, dans les années 70, il a fait beaucoup de choses pour la communauté noire de changer. Beaucoup de choses qu'on voit maintenant, ce n'est pas donné. C'est parce que lui, il a encouragé la participation des Noirs, surtout au niveau fédéral. Il a aussi encouragé la participation des Noirs dans le processus politique. Il était le premier président après l'époque des années 60 pour la lutte pour les droits civiques. Et je crois qu'il a ouvert la porte pour ce qu'on a vu après, notamment Barack Obama, le premier président élu noir afro-américain. Et alors, pour les femmes aussi, il a encouragé les droits des femmes, surtout pour le droit de vote hors des États-Unis, avec le Carter Center. Ça, c'était un de ses projets, de vraiment protéger le pouvoir de vote, le droit de vote pour tous les citoyens, y compris les femmes. Et je crois que dans les livres d'histoire, ça va être un point très important pour Jimmy Carter. Encore une fois, quelque chose qu'il a fait après la Maison-Blanche.
Et au niveau de son héritage diplomatique?
Jimmy Carter, il a démontré que, bien, pour l'économie aux États-Unis, pour l'inflation, et c'était une époque très compliquée après la chute de Richard Nixon, il n'est pas beaucoup réussi. Mais pour l'étranger, quand il était dans la Maison-Blanche, ce qu'il a fait avec Israël et l'Égypte, et après, quand il a beaucoup, beaucoup travaillé pour la paix, il représentait la force des États-Unis de manière positive dans les élections, dans la lutte contre les maladies. Et je crois que c'est pour ça que le monde se souvient de Jimmy Carter.
Calvin Dark, analyste américain, directeur et cofondateur de RCCO Communication, un centre de réflexion basé ici à Washington, D.C.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Tchad, le calme est revenu ce jeudi à N'Djamena, au lendemain d'une attaque au palais présidentiel. 18 assaillants et 2 militaires ont été tués, selon un nouveau bilan des autorités. Ce récit officiel est mis en doute par certains opposants. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les dispositifs de sécurité renforcés et les interdictions de circulation mises en place hier soir ont été levés ce jeudi matin aux abords de la présidence. La tension est montée hier soir lorsque des tirs nourris ont éclaté en plein centre de N'Djamena. Selon le porte-parole du gouvernement Abderrahmane Koulamala, 24 assaillants ont attaqué les gardes du palais présidentiel avec des armes, des machettes et des couteaux avant d'être neutralisés. D'après le procureur de N'Djamena, Oumar Kedelaï, ces individus ont simulé une panne de leur véhicule et en ont profité pour attaquer les gardes du palais présidentiel. Il ajoute que les assaillants ont tué 2 militaires et grièvement blessé 5 autres. Le gouvernement parle de 18 assaillants tués et 6 autres blessés. Max Kemkoy, porte-parole du groupe de concertation des acteurs politiques, un groupe de partis d'opposition, évoque un montage orchestré par le pouvoir. Une armée aguerrie qui panique devant des travailleurs qui rentraient chez eux s'est interrogé sur Facebook Abdelaziz Koulamala, frère du porte-parole du gouvernement, mais membre de l'opposition.
Le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Joseph Aoun, a été élu ce jeudi président de la République, mettant fin à une vacance de plus de 2 ans à la tête du pays qui a aggravé ses crises économiques et politiques. Nani Talani nous en dit plus.
Aujourd'hui commence une nouvelle ère dans l'histoire du Liban, a déclaré Joseph Aoun après avoir prêté serment au Parlement en tenue militaire. Il a annoncé qu'il s'emploierait à consacrer le droit de l'État à avoir le monopole des armes après une guerre dévastatrice entre Israël et le Hezbollah pro-iranien, lourdement armé, acteur incontournable de la scène politique. Ce groupe armé est sorti affaibli par 2 mois de guerre avec Israël et la chute début décembre du président syrien Bachar al-Assad, son allié. Joseph Aoun s'est engagé à des consultations rapides pour nommer un premier ministre et à respecter la trêve avec Israël après une vacance de plus de 2 ans à la tête du pays. Le Parlement n'est pas parvenu à élire un président depuis la fin du mandat du président sortant Michel Aoun en octobre 2022. Joseph Aoun a recueilli 99 voix sur 128 au Parlement lors d'une deuxième session, lui assurant la majorité nécessaire pour l'emporter. La candidature du commandant en chef de l'armée, qui a une réputation de probité et d'impartialité, était appuyée par les États-Unis et l'Arabie Saoudite, poids lourd régional.
Retour sur le continent, le président ivoirien Alassane Ouattara a déclaré jeudi être désireux de continuer à servir son pays tout en assurant ne pas avoir pris de décision au sujet de sa candidature à un quatrième mandat à la présidentielle d'octobre. C'était à l'occasion de ses vœux au corps diplomatique sous les applaudissements nourris des membres du gouvernement. Il a également estimé que son parti avait au moins une demi-douzaine de candidats qui sont dans la salle sans les nommer. Présent la Minute Éco avec Nani Talani.
Au Mali, la reprise de l'activité économique devrait croître de 5,3% cette année, tirée par les activités extractives, avec le démarrage de la production de lithium en 2024, la relance du secteur textile et le développement du potentiel de production et de transformation du blé. Le déficit du compte courant devrait s'améliorer à 5,9% du PIB grâce à l'augmentation prévue des exportations de coton et aux exportations d'or et de lithium. La croissance du Gabon en 2025 sera freinée par la baisse des prix du pétrole et la stagnation de la production, compensée seulement par de nouveaux gisements, indique Coface, un assureur de crédit qui opère dans le monde entier. Les exportations pétrolières seront également sous pression, d'autant que la demande chinoise, qui représentait 25% des exportations gabonaises en 2023, devrait ralentir. Pour terminer, le Bénin a accueilli mercredi à Cotonou des ministres des Affaires étrangères des pays de la Communauté des Caraïbes pour renforcer la coopération économique, culturelle et sécuritaire. Les discussions ont porté sur l'amélioration des liens économiques, notamment à travers des investissements croisés dans les secteurs du tourisme, de la transformation agricole, de l'industrialisation et de la connectivité.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
La Fédération guinéenne de football remplace son sélectionneur du Sili local, Souleymane Camara, et son assistant Guillaume Souma.
Oui, la Fédifoot explique que le coach Souleymane Camara et son assistant Guillaume Souma n'ont pas de diplôme requis par la CAF qui exige une licence CAF A, CAF Pro ou une licence Pro d'une autre confédération et leurs assistants une licence CAF A ou une licence Pro d'une autre confédération. Les deux techniciens guinéens ne pourront donc pas conduire le Sili local au CHAN prévu du 1er au 28 février au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. La Fédération guinéenne de football, tout en exprimant sa satisfaction et ses sincères félicitations au sélectionneur Souleymane Abedi Camara et son assistant Guillaume Souma, prendra les mesures nécessaires en collaboration avec la direction technique nationale pour se conformer aux exigences de la CAF tout en procédant au remplacement des deux entraîneurs concernés, a affirmé la Fédifoot dans un communiqué.
Victor Boniface, absent lors du déplacement de Leverkusen à Dortmund.
L'attaquant nigérian du Bayer Leverkusen ne sera pas de retour pour le match de demain contre le Borussia Dortmund. Victor Boniface n'a pas joué pour les champions d'Allemagne en titre depuis son retour, blessé à la jambe de sa sélection avec le Nigeria en novembre. Plus tôt en janvier, le club avait déclaré que le joueur de 24 ans avait subi un petit contretemps dans son rétablissement. Il a besoin d'un peu plus de temps, nous devons être patients pour qu'il revienne à son meilleur niveau, a déclaré son coach Xavi Alonso. Boniface a inscrit 6 buts et délivré une passe décisive en 10 matchs de championnat cette saison. Leverkusen, qui a remporté le double coupe championnat tout en restant invaincu sur le plan national la saison dernière, occupe la deuxième place de la Bundesliga à 4 points du leader, le Bayern Munich.
Ici en NBA, Cleveland stoppe Oklahoma City.
À l'issue d'un choc superbe entre deux équipes en forme, les Cleveland Cavaliers ont mis fin à la série de 15 succès du Thunder d'Oklahoma City. Cleveland s'est montré trop fort dans sa salle à l'issue d'un match haletant remporté 129-122. Les Cavaliers, meilleure équipe de la saison, comptent désormais 32 victoires et 4 défaites. Même s'il a manqué quelques tirs inhabituels, l'inévitable Canadien Shai Gilgeous-Alexander d'Oklahoma City a brillé avec 31 points. Cleveland lui a opposé un effort collectif avec 7 joueurs à plus de 11 points. De leur côté, les San Antonio Spurs ont été largement dominés par les Milwaukee Bucks, 121-105. C'est la troisième défaite consécutive pour Victor Wembanyama, 10 points, 10 rebonds et 3 contre et ses coéquipiers. Sans leur star Nikola Jokic, les Denver Nuggets ont réussi à gagner contre les Los Angeles Clippers, 126-103.
Merci à Kuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Je vous le disais tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara dit être désireux de continuer à servir son pays tout en assurant ne pas avoir pris de décision au sujet de sa candidature à un quatrième mandat à la présidentielle du 25 octobre 2025. Il a aussi estimé que son parti a au moins une demi-douzaine de candidats, dont sans les nommer, pouvant être de potentiels successeurs. À 83 ans, le président Ouattara est au pouvoir depuis 2011. Yacouba Ouédraogo a adjoint à Abidjan l'analyste Christophe Kouamé.
Il a été clair, analysons ce qu'il a dit. Il dit en substance, quand j'aurais souhaité passer la main à une génération suivante, j'ai eu raison de prendre le leadership d'être candidat et d'être président. Et je vous informe que ma santé me permet encore de servir à ce poste. Je pense que à travers les phrases que j'ai prêtées au président Ouattara, nous pouvons dire que le président Ouattara est candidat pour les élections 2025.
Le président Alassane Ouattara a aussi estimé que son parti, le RHDP, a au moins une demi-douzaine de candidats sans les nommer, pouvant être de potentiels successeurs. Et donc, il laisse la fenêtre ouverte.
Les débats pour les présidentielles 2025 qui ont commencé depuis 2 ans et que nous regardons les candidats en face du RHDP, si le RHDP prend le risque aujourd'hui d'aller dans 3 mois, dans 4 mois, dans 1 mois à un congrès pour désigner un candidat, il n'y aura pas suffisamment de temps et d'espace pour se faire connaître ou être élu ou battre les candidats actuels.
Vous parliez d'autres candidats et justement, l'ancien président Laurent Gbagbo a été investi par son parti, le PPACI, même si jusqu'à présent il n'est pas sur la liste électorale. Son ex-épouse Simone Eyvé Gbagbo a annoncé sa candidature. L'ancien Premier ministre Pascal Affine Nguessan a de son côté été investi par le FPI, le Front Populaire Ivoirien. On attend le candidat du PDCI dans la mesure où, à côté de Tidiane Thiam, il y a aussi Jean-Louis Billon. Comment vous voyez justement cette présidentielle d'octobre 2025?
La présidentielle d'octobre 2025 est censée être inclusive si et seulement si tous ces candidats sont éligibles et assurent la liste électorale. Je parle du cas de M. Blé Goudé et du cas de M. Gbagbo. Nous ne doutons pas que la sagesse va prévaloir en ce sens que, si vous vous rappelez bien, en 2000 et en 2010, le président Gbagbo a pris une décision particulière pour que le président Ouattara soit candidat. Donc pour nous, la question sur la liste électorale n'est qu'un problème politique et le dialogue politique va le résoudre. À côté de tout cela, ce que nous attendons de cette diversité de candidats, c'est que tout de suite, les candidats passent à leur projet de société et fassent le débat sur le bilan actuel du RHDP qui est le parti sortant. Au niveau du RHDP parti sortant, vous savez qu'on a atteint un certain niveau de corruption, on a un certain niveau de pauvreté, un certain niveau d'accès à l'éducation, à la santé, à l'électricité et tout. Nous attendons que cette pléiade de candidats commence tout de suite à nous dire, dans le cadre précis de la corruption, voilà ce que nous comptons faire, comment nous allons le faire, combien ça va coûter. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire est dans 8% de son PIB. La dette de la Côte d'Ivoire aujourd'hui pèse 57% du PIB de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, aujourd'hui, les débats, ce sont les personnes.
L'analyste Christophe Kouamé, joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, de nombreuses personnes au teint naturellement foncé préfèrent s'éclaircir la peau en utilisant des produits chimiques qui peuvent nuire à long terme à leur santé physique et mentale. Le reportage de Zanem Neti Zaidi à Goma, le récit est de Thierry Kaoré.
En Afrique, des milliers de personnes optent pour des pratiques cosmétiques afin d'obtenir un teint plus clair. Selon les experts, l'identité culturelle et la pression de la société sont à l'origine de ces phénomènes qui constituent un important problème de santé publique sur tous les continents. Dans l'est du Congo, de nombreuses personnes ont recours à cette pratique et regrettent leur décision par la suite. Delphine Bindou est l'une d'entre elles.
Quand on est jeune et qu'on essaie toujours de se comparer aux autres, on finit par faire beaucoup d'erreurs. J'avais le teint foncé et j'étais proche d'une amie qui était naturellement brune. J'ai donc acheté de lotions pour éclaircir ma peau. Mais aujourd'hui, je regrette trop d'avoir perdu le teint avec lequel Dieu m'a créé.
Dans de nombreux magasins, des produits cosmétiques de Goma, les crèmes de beauté éclaircissants sont les préférés des consommateurs.
Ici en Afrique, beaucoup de gens pensent que l'utilisation des produits éclaircissants fait d'eux des personnes propres. Mais cela ne fait qu'abîmer leur peau. Je suis convaincu que la peau noire est bien meilleure que la peau brune que les gens envient.
Le docteur Pascaline Ngolo est dermatologue à l'hôpital Charité Maternelle de Goma. Elle dit que les parents doivent éduquer leurs enfants sur les effets néfastes de la dépigmentation de la peau sur le corps humain.
Actuellement, on a trouvé qu'il y a beaucoup de cas de diabète et à côté de ça, avec les analyses, on a vu que ce sont des produits qu'on utilise, les produits éclaircissants, à base de corticoïdes qui donnent ça. Vous voyez que là, c'est déjà un problème. Il y a aussi d'autres complications internes et toujours, nous avons aussi des cas de cancer. Il y a même les études qui ont été faites et on a publié aussi ces études qui montrent que ces produits peuvent donner des complications ou des cancers des ovaires. À part les cancers, il y a la fragilité de la peau, de l'organisme.
Outre les dommages physiques, la dépigmentation de la peau a également d'énormes conséquences mentales, prévient la psychologue Rachel Boutou.
La dépigmentation finit par affecter les personnes sur le plan mental, car progressivement elles ne parviennent plus à socialiser avec certaines personnes qui les avaient connues avant le changement de leur couleur de peau. Elles se retrouvent dans un état de stress permanent face aux nombreuses questions des gens, ce qui les plonge dans la dépression et l'anxiété.
Selon les experts, ces dernières années, les campagnes de sensibilisation se sont multipliées dans la région contre la dépigmentation de la peau, qui conduit de nombreux praticiens à se retrouver à l'hôpital. Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
L'archipel des Seychelles, situé au large de la côte est de l'Afrique, est un véritable creuset culturel. Des personnes d'origine chinoise y résident depuis longtemps, mais les investissements de Pékin dans ce pays stratégiquement situé ont également attiré de nouveaux arrivants chinois désireux de faire des affaires avec la nation insulaire. Le point avec Kate Barlett. Le récit est de Ginny Niwa.
Des saveurs chinoises, parfois agrémentées d'une touche de créole. Molly Roseli est séchelloise d'origine chinoise.
Disons que le chow mein est un plat chinois. C'est le chow mian. Mian veut dire nouille, mais nous disons chow mein. Il est donc cuisiné avec des saveurs créoles.
La culture sino-séchelloise ne se reflète pas seulement dans la nourriture. Elle fait partie de l'histoire de personnes comme Molly Roseli et d'autres résidents des Seychelles qui ont des origines chinoises. Roseli parle couramment le mandarin et présente la culture locale à la nouvelle vague de touristes et d'hommes d'affaires chinois. Cependant, les nouveaux arrivants de Chine et les résidents de longue date n'ont pas grand-chose en commun, déclare Paul Cho, qui est également d'origine chinoise.
Je ne parle que le créole. Et eux, ils ne parlent que le chinois, alors il n'y a pas moyen de se mélanger avec eux.
Ces dernières années, la Chine a porté son attention sur les Seychelles, qui occupent une position stratégique et offrent un accès facile à l'Afrique, au Moyen-Orient et à l'Asie du Sud. Cette île n'était pas une destination de choix lorsque le père de Paul Cho est arrivé.
Mon père est arrivé aux Seychelles en 1943, je crois. Mais il est arrivé aux Seychelles par accident.
Originaire du sud de la Chine, le père de Paul Cho se rendait à Madagascar, un endroit très prisé à l'époque par les Chinois en quête de travail. Quelqu'un est tombé malade sur le bateau et les passagers ont été mis en quarantaine ici, aux Seychelles. Le père de Paul Cho est resté à trouver du travail et à épouser une femme de la région.
Les Chinois s'installent partout où ils pensent qu'il y a une opportunité.
Au cours de leur histoire, les Seychelles ont fait partie de la France puis de la Grande-Bretagne avant d'obtenir leur indépendance en 1976. Aujourd'hui, la majorité de la population est créole, c'est-à-dire qu'elle a des origines françaises et africaines. Les descendants de migrants chinois représentent entre 500 et 1000 personnes. La plupart de leurs ancêtres ont quitté la Chine pour échapper à la pauvreté. Il y a plus de 10 ans, Pékin a commencé à financer des projets de construction aux Seychelles, ce qui a amené une nouvelle vague de travailleurs chinois. L'ambassadeur de Chine aux Seychelles les décrit comme des symboles de l'amitié bilatérale. Sylvestre Radégonde est le ministre seychellois des Affaires étrangères et du Tourisme.
Il est certain que depuis 4 ans que je suis ministre des Affaires étrangères, j'ai vu comment cette relation s'est développée.
Paul Chiu, seychellois d'origine chinoise.
Je ne pense pas que les Chinois fassent quoi que ce soit avec les Seychelles, si ce n'est qu'ils veulent s'y installer, y avoir des intérêts, afin de pouvoir surveiller ce qui se passe dans l'océan Indien. La Chine est très riche maintenant et tout le monde accueille les Chinois.
Le tourisme étant l'un des principaux secteurs d'activité ici, des guides comme Rosalie attendent avec impatience le nouveau vol charter direct en provenance de Chine, avec l'espoir qu'il apportera de nouvelles opportunités d'affaires aux Seychelles.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Égypte a dévoilé mercredi de nouvelles découvertes archéologiques, dont des tombes de hauts fonctionnaires vieilles de 4000 ans et des œuvres d'art de l'époque de la reine Hatshepsut dans une ancienne nécropole de la célèbre ville de Louxor. Les découvertes couvrent de la 15e dynastie jusqu'à la puissante 18e dynastie qui comptait des pharaons comme la reine Hatshepsut et le roi Toutankhamon. Nyanitalani nous fait le point.
Les artefacts mis au jour lors d'une fouille de 3 ans ont été trouvés dans la région de Deir al-Bahari, dans la nécropole de Thébès, sur la rive ouest du Nil, a déclaré l'égyptologue Zahi Awas, qui a dirigé la mission de coopération avec le Conseil suprême des antiquités d'Égypte. Suivons Zahi Awas.
La découverte la plus importante est qu'une partie de ce temple avait déjà été découverte par le Metropolitan Museum et que certains blocs avaient été trouvés, mais c'est la première fois que nous découvrons 1500 blocs décorés. Ce sont les plus belles scènes que j'ai jamais vues de ma vie avec ces couleurs et c'est la première fois que nous disposons d'un ensemble final de la décoration d'un temple datant de la 18e dynastie.
Hatshepsut, grande épouse royale de Thoutmôsis II, Hatshepsut, grande épouse royale de Thoutmôsis II, régenta son beau-fils Thoutmôsis III après la mort de son mari. Lorsque Thoutmôsis III hérita du trône à l'âge de 2 ans, elle assuma d'abord la régence, puis devint pharaon, agissant en tant que co-dirigeante aux côtés de Thoutmôsis III. Parmi les autres découvertes, des tombes taillées dans la roche datant du Moyen Empire, ainsi qu'une tombe du surveillant du palais de la reine Tétichéri, la grand-mère du roi Amosis, qui expulsa d'Égypte les Hyksos, envahisseurs d'Asie occidentale, qui ont gouverné certaines parties de l'Égypte jusqu'à leur défaite et leur expulsion. Zahi Awas.
Depuis la découverte de Toutankhamon, aucun monument royal n'a été retrouvé. Aujourd'hui, nous annonçons une découverte importante liée au roi Amosis, celui qui a écarté les Hyksos, Thoutmôsis II, Thoutmôsis III, et aussi à la reine.
Dépouilles funéraires contenant les cercueils en bois ornés d'un signe de plume de la 17e dynastie, ainsi que des tombes d'enfants contenant des jouets et des sections de la nécropole ptolémaïque d'Assassif près du temple de la reine Hatshepsut ont également été découverts. Écoutons encore Zahi Awas.
Les cercueils sont datés de la 18e dynastie et nous avons un cercueil intact d'un enfant avec des nattes qui doivent être restaurées. Tous ces cercueils sont appelés les cercueils rishi pour protéger les rishi dans l'au-delà.
L'égyptologue Zahi Awas affirme que son équipe mène des recherches dans une zone où il pense que les tombes d'Amosis Ier et peut-être de Khamos pourraient être découvertes. Amosis Ier est célèbre pour avoir libéré l'Égypte de l'occupation des Hyksos. Khamos, son prédécesseur, avait déjà combattu les Hyksos, mais ce n'est qu'après sa mort que l'Égypte fut unifiée sous Amosis.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de la rédaction et la production. Au micro, vous étiez avec Rosine Mounezero, à la mise en onde, Joselle Maurice. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.